Figaro Radio.
Le club, le Figaro International.
Philippe Gély.
Michel Goya, vous êtes historien et expert militaire, ancien colonel des troupes de marine, devenu l'un des commentateurs militaires les plus écoutés sur les ondes, auteur d'une vingtaine de livres, dont le dernier s'intitule « L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas », paru le mois dernier en mars chez Perrin Robert Laffont. Patrick Saint-Paul, rédacteur en chef du service international du Figaro, auteur d'une lettre hebdomadaire « Éclat du monde », diffusée auprès des abonnés du Figaro. Cyril Louis, vous êtes rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro et grand reporter, vous aussi ancien correspondant à Jérusalem. Et vous rentrez d'ailleurs tout juste d'une nouvelle série de reportages sur le terrain, sur ce terrain que vous connaissez bien. Alors justement, on va commencer par le terrain. Il y a cette annonce d'un retrait de l'armée israélienne de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, avec la promesse de revenir pour attaquer Rafah. Déjà, est-ce que ça fait du sens d'annoncer un retrait dans la perspective de revenir pour attaquer Rafah, où, on le rappelle, sont amassés beaucoup de réfugiés, de déplacés de la bande de Gaza. Michel Goya.
Alors, on a un peu de mal à suivre la stratégie israélienne, en réalité. On se demande même s'il y a vraiment une stratégie ou plutôt une suite de réactions, d'actions, ouais. Militairement, la théorie, c'est pour ce genre de situation, c'est on passe par une phase éventuelle de préparation, ça a été le cas au mois d'octobre, préparation, c'est des bombardements, des frappes à très grande échelle, très dévastateurs et à mon sens très contre-productifs aussi, mais bon.
Vous nous expliquerez pourquoi.
Oui, la phase de conquête terrestre, il faut passer, si on veut détruire, démanteler le Hamas autant que possible, tuer ses chefs et essayer de libérer le maximum de prisonniers, il faut occuper le terrain en réalité, et pas 36 solutions. Donc là, c'est l'offensive terrestre, 25 octobre, pendant le mois de novembre, qui a été faite en séquence, nord puis sud. Et puis la phase suivante, normalement, c'est une fois qu'on a bien conquis le terrain, on le contrôle un temps, on l'occupe, et puis là, on finit, d'une certaine façon, on essaie de finir le travail, de terminer la mission, même si l'ennemi est forcément toujours là, le Hamas sera forcément toujours là, même résiduel, ou d'autres groupes. Mois de novembre, occupation, il y a une division, la 36e, qui occupe le nord de Gaza. Mois de décembre, la 98e division, l'autre division qui est engagée dans le sud. Donc ça, c'est les phases de conquête assez classiques. Et puis, les choses se sont un petit peu enrayées, notamment à partir de la fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier, on constate que les Israéliens ne progressent plus sur le terrain. Ils n'avancent plus. Vous regardez les cartes, ça ne bouge pas. Vous regardez les pertes...
Mais pas à cause d'une résistance renouvelée du Hamas, si ?
La
cause, on la connaît ?
C'est assez étonnant. Je pense qu'il y a une usure des forces aussi, des forces israéliennes. Ces forces israéliennes, je rappelle, c'est militaires, elles sont doubles. Elles avaient des unités d'actives, des brigades d'actives, qui sont des brigades de conscrits, d'appelés, et puis des unités de réserve, qui ont été mobilisées au début de la guerre, dont certaines ont été engagées dans Gaza. Mais les unités de réserve, par exemple, ne pouvaient pas les maintenir en permanence. Il faut, vous bloquez la vie de la société, si vous gardez tous vos réservistes dans l'armée. C'est comme la mobilisation israélienne, c'est comme si on avait mobilisé 3 millions de personnes, on avait enlevé 3 millions de personnes de la vie active française.
Donc ça impacte
au bout d'un moment, il faut les libérer tout simplement, les démobiliser. Et puis, même les troupes qui sont engagées, vous avez certaines brigades, la brigade Givati, par exemple, israélienne, elle est engagée depuis le début. Ça fait 6 mois qu'ils sont en combat dans Gaza. Ils ont eu 40 morts, plusieurs centaines de blessés. D'une manière générale, actuellement, les Israéliens ont 2400 soldats tués ou blessés. Beaucoup plus de blessés, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, incontestablement...
On parle de 600 tués, donc.
600 tués, en comptant le 7 et 8 octobre. Gaza même, dans les combats de Gaza, on devait à 262 soldats tués, précisément.
D'accord.
Et 7 à 8 fois plus de blessés, dont des accidents, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il y a une usure, certainement. Et toujours est-il que la mission n'a pas été terminée. C'est ça que Mouvement s'est arrêté en plein milieu de la mission de conquête dans le sud. Maintenant, on décide au contraire de se replier du sud.
Avec la possibilité possibilité d'une trêve dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent.
Alors, ça peut s'expliquer par le besoin, effectivement, un peu de se reposer, de se reconstituer. Peut-être simplement, il y a eu un refus, j'allais dire un refus devant la difficulté que représentait la conquête complète du territoire, notamment Rafah, c'est très compliqué, la pression internationale, etc. Mais il y a toujours aussi la résistance du Hamas, quoi qu'on dise, qui est toujours là, même s'ils ont subi des coups. Et donc, on est dans une phase un peu étrange où on se replie, on maintient le contrôle du Nord, très imparfait, et encore, hein, parce qu'il y a encore des combats dans le Nord, notamment à l'hôpital Al-Shifa, et puis on maintient, on retire des forces pour pouvoir les engager éventuellement à nouveau dans le sud du pays, ou peut-être, les a-t-on retirés pour préparer éventuellement, ou pour se faire face éventuellement à un nouveau front
au nord,
qui s'ouvrirait éventuellement vraiment au nord.
Pour rester pour l'instant à Gaza, vous avez couvert tous les deux des interventions israéliennes antérieures. Patrick Saint-Paul, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Quelle est la plus grande différence à vos yeux? Est-ce que c'est juste une question de proportion ou est-ce que c'est une différence d'objectif?
L'objectif affiché de toutes les opérations que j'ai vécues à Gaza, en tout cas, ça a toujours été de détruire l'infrastructure terroriste du Hamas. Et à ce jour, il n'y a aucune des opérations qui a réussi, sinon il n'y aurait pas eu les attentats du 7 octobre. Mais ce qui est frappant, c'est évidemment l'ampleur des opérations qui n'a absolument rien à voir avec rien de ce qui a été connu jusqu'à présent. À Gaza, on parle d'une nouvelle Nakba, et c'est vrai que c'est
nouvelle catastrophe en arabe.
Catastrophe.
Ça fait référence à 1948.
Oui, c'est vrai que là, bon, il n'y a pas le nombre de réfugiés pour l'instant, puisqu'ils sont un peu pris au piège à Gaza, mais on a du mal à imaginer comment une vie pourra reprendre à Gaza, sans hôpitaux, sans infrastructures. Enfin, il y a quand même des destructions qui sont massives par rapport à tout ce qui a existé auparavant.
Cyril Louis, la différence qui vous saute aux yeux?
C'est tout ce que vient de dire Patrick, et puis je pense que l'espèce d'enlisement qu'on pressent en effet de l'opération israélienne renvoie aussi au fait que les buts de guerre définis les 7 et 8 octobre par le comité de guerre, par Benjamin Netanyahou, sont fuyants, sont insaisissables. Détruire le Hamas, détruire l'infrastructure militaire, détruire le gouvernement politique, on a assez vite compris que c'est un objectif hors d'atteinte. Libérer les otages.
Voilà, deuxième objectif, libérer les otages.
Renforcer les opérations militaires, parce que c'est la doctrine israélienne, c'est de dire qu'il faut appliquer une pression incessante sur le Hamas pour les contraindre à libérer les otages. Manifestement, ça ne marche que de façon assez imparfaite. Et donc, les Israéliens se sont emparés de la moitié nord de l'enclave. Ils ont assez vite expliqué que ça allait être pour eux une espèce de butin de guerre qui pourrait par la suite négocier avec les groupes armés palestiniens. Et donc, ils refusent de laisser remonter la population palestinienne parce qu'ils essayent de garder le contact de ce territoire. Comme le disait Michel Goya, c'est un contact qui est très, un contrôle qui est très imparfait.
Oui.
Quand ils se sont retirés, on a très vite vu revenir des attaques de petits groupes armés palestiniens. On a vu aussi revenir une forme d'administration civile très, très embryonnaire, mais par exemple pour accompagner les convois d'aide humanitaire. Après avoir conquis le Nord, ils avaient désigné Khan Younes comme une cible privilégiée et donc ils ont pris le contrôle d'une grande partie de Khan Younes où des combats continuent de sévir. Et on a un peu le sentiment qu'ils ont atteint les limites de l'exercice. Alors reste Rafah, mais Rafah, j'ai l'impression que les Israéliens sont soumis à de très fortes pressions de l'administration américaine.
On y viendra tout à l'heure.
On ne peut pas s'y lancer.
On voit derrière moi une carte des destructions, des zones les plus touchées, le nord, mais en fait c'est considérable. Est-ce que la proportion des dégâts à laquelle on assiste aujourd'hui et qui est au cœur de toutes les discussions, voire des polémiques en fait sur la poursuite ou pas de cette guerre, est-ce que c'est quelque chose de vraiment inédit, disproportionné? Ou bien est-ce qu'on a d'autres exemples, Michel Goya, de destruction similaire?
C'est assez inédit, en fait, dans les opérations militaires modernes, on va dire, depuis 30 ans. On parlait des guerres précédentes entre Israël et le Hamas. La guerre précédente en 2014, parce qu'il y a eu toute une série, évidemment, de guerres, hein, c'était en 2008, 2012, 2014. Il y a eu, par exemple, 1500, on estime à peu près qu'il y a eu à peu près 1500 morts civiles à la suite des combats et surtout des frappes aériennes. Là, on est sur un ordre de grandeur de 10 fois plus. Quoi. C'est 10 fois plus.
Au moins 15 000 civils.
Probablement. Alors, il y a tout un débat sur les chiffres.
Oui, les chiffres du Hamas, c'est plus de 33 000 morts.
Oui, c'est 33 000 dont les combattants.
Environ un tiers.
À peu près un tiers. Israël revendique avoir tué 13 000 combattants du Hamas et des autres groupes. Bon, sans doute un petit peu moins, mais même 10 000. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une mortalité naturelle. Hein. Vous avez 4 000 personnes qui meurent naturellement tous les 6 mois à Gaza. Hein. Mm. Et donc, au bout du compte, oui, il est certainement aux alentours de 15 000 civils qui ont été tués. Ce qui est considérable, évidemment. Ce qui est considérable par rapport au passé, c'est considérable par rapport à d'autres opérations. Je ne sais pas, en Syrie, par exemple, on estime que la Russie en 3-4 ans, a tué peut-être 8000 civils, quoi, de l'aviation russe, que l'aviation de la coalition donc anti-Daesh, menée par les Américains, sur 4 ans, aurait peut-être vraisemblablement tué peut-être 13 000 personnes en 4 ans. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup
plus... Donc là, on est dans une séquence extrêmement concentrée. Vous revenez d'Israël, Cyril Louis... Ils s'en fichent, les Israéliens, ou bien l'information ne les atteint pas, ou quelle est la réaction de la société israélienne ?
Il y a plusieurs choses. D'une part, ils considèrent que les Palestiniens de la bande de Gaza sont collectivement responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mmh. Ils considèrent qu'il n'y a pas de ou peu de Palestiniens innocents sur le territoire. Oui. Ensuite, ils sont relativement peu exposés aux images sortant de la bande de Gaza, parce qu'en fait, quand vous regardez la télévision israélienne, ils continuent de tourner en boucle, de façon sans doute en partie compréhensible, sur les témoignages, sur les récits des attaques du 7 octobre. Et ils ont peu de disponibilité intellectuelle, psychique, pour essayer de s'intéresser à ce que subit la population palestinienne en ce moment. Donc y a peu d'empathie. Les sondages sont assez étonnants. D'ailleurs, je crois 88% des Israéliens qui considèrent que le niveau de force appliqué dans la bande de Gaza est le bon et que le niveau de victime est tout à fait acceptable. Et il y a une large majorité de la population qui considère que Israël ne doit pas favoriser le transfert d'aide humanitaire dans Gaza, alors que l'ONU alerte depuis maintenant plusieurs semaines sur un risque de famine
comme imminent. On est même au-delà du risque de famine, puisqu'apparemment il y a une proportion de la population assez élevée qui est déjà impacté par le manque de nourriture. Ça, c'est quelque chose, c'est une information qui est présente dans les médias israéliens ou pas du tout
C'est une information qui peut être évoquée, mais qui est en fait interprétée comme un élément de propagande. Il faut comprendre qu'en Israël, il y a depuis très longtemps une très forte défiance vis-à-vis de l'information relayée par les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie et à Gaza. Ils ont même une expression pour parler de ça. Ils parlent de Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, avec beaucoup de mauvaise foi, souvent, hein, et de malhonnêteté intellectuelle. Mais il y a une forme de refus de se mettre à la place de l'autre. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une assez grande symétrie entre Israéliens et Palestiniens.
Mais Israël est un pays ouvert sur le monde, avec des tas de gens qui regardent CNN ou la BBC, ou voire des médias français.
Ils ont le sentiment que le monde est contre une espèce de posture d'assiègement psychique et intellectuel. Ils ont le sentiment tous les Israéliens ne sont pas comme ça, mais un certain nombre d'Israéliens ont le sentiment que le monde entier est contre eux, que le monde entier refuse de prendre en compte le traumatisme terrible et le sentiment d'humiliation auquel ils ont été confrontés après le... Après le 7 octobre, je voulais dire un mot, pardon, pour répondre à votre question de la comparaison avec la guerre de 2014. En 2014, il y avait eu évidemment des frappes extrêmement importantes dans Gaza, plus de 1500 morts en effet, mais les frappes étaient finalement circonscrites dans un certain nombre de quartiers qui étaient identifiés comme des bastions des groupes armés palestiniens. Ashejaïa, Beit Hanoun, Ahouza. Et donc ces quartiers étaient détruits de manière extrêmement spectaculaire, mais il y avait d'autres quartiers de la bande de Gaza dans lesquels on pouvait se promener et qui étaient relativement indemnes. Là, ce qu'on croit comprendre des images qui sortent de Gaza, et des statistiques qui sont communiquées par l'ONU, il semble que 70% du bâti dans le nord de la bande de Gaza a été détruit. Ouais. 70%, ça veut dire que le territoire est complètement inhabitable. Et ça renvoie à une crainte qui a été exprimée d'emblée par les Palestiniens, qui est celle dont vous parliez, celle d'une deuxième Nakba, d'un deuxième déplacement forcé ou organisé après celui de 1948. Et la grande question qui se pose, quand bien même les hostilités s'arrêteraient demain ou après-demain, c'est celle de savoir si ce territoire va être habitable. À cela s'ajoute la question de l'inertie. C'est-à-dire, quand on parle des pertes et qu'on dit il y a 30 ou 35 000 morts aujourd'hui, les gens qui ont l'habitude d'étudier ce genre de statistiques disent que même si les combats s'arrêtent aujourd'hui, il va y avoir une forme d'inertie qui fait que le bilan va monter probablement beaucoup plus haut dans les semaines qui viennent. Mmh.
Il y a un tas de gens qui sont soignés, qui dépendent d'Israël et qui sortent de la bande de Gaza pour se faire soigner. Tous les gens qui sont atteints d'un cancer, en fait, se font soigner en Israël.
Et eux, habituellement, pas en ce moment.
Habituellement, et en ce moment, par exemple, ça, c'est juste un exemple, ça ne marche plus. Les gens qui reçoivent des dialyses d'habitude ne peuvent plus être dialysés. Donc, il y a un tas de maladies chroniques qui ne sont plus soignées. Donc, tous ces gens vont alourdir le bilan. Oui.
Et alors, pour prix de ces destructions considérables que nous... qui sont abondamment documentés. Est-ce qu'on est quand même dans une logique de succès militaire du point de vue israélien ou pas, Michel Goya?
Alors, c'est...
Les objectifs sont en partie atteints?
L'objectif, encore une fois, on l'a rappelé, l'objectif stratégique annoncé par Netanyahou, c'était la destruction du Hamas. Bon. Ça, après, comment ça se traduit concrètement, c'est compliqué. Si vous êtes le Premier ministre, vous dites je suis votre chef d'état-major, vous dites voilà, il faut détruire le Hamas. Écoutez, moi, je vous dis, moi, ce que je peux faire, maximum, c'est démanteler cette organisation, le casser, et tuer ses chefs éventuellement, et ramener au moins le Hamas à sa condition d'organisation clandestine, avant 2007. C'est un peu ce qui s'est passé pour l'État islamique, que ce soit en 2008, pour la première fois, et puis en 2019, pour une deuxième fois. L'État islamique est toujours là, à chaque fois, il a survécu, mais on peut peut-être, en tout cas, l'étouffer. Et au moins, ça aurait été peut-être une réponse à la hauteur de l'attaque et du choc du 7 octobre. Mais là, ces objectifs ne sont pas complètement atteints. Alors, Netanyahou dit, voilà, on a tué 10 000, 13 000 combattants ennemis, vous avez rajouté des blessés graves, des prisonniers, etc. Ça fait, vous avez éliminé 25 000 combattants ennemis, bon, sur peut-être 40 000. Sachant qu'il y a d'autres qui sont peut-être venus aussi en cours de route, des volontaires qui sont venus en cours de route, sans même parler de tous les vengeurs dans les familles qui ont été meurtris et qui se diront peut-être qu'un jour je vais prendre les armes contre ceux qui ont tué ma famille. Bon, donc le Hamas a subi des coups considérables, incontestablement, mais est toujours là. Si les combats s'arrêtent aujourd'hui, le Hamas, Yassine Ouar, son chef, peut dire, écoutez, voilà, ça fait six mois, on est toujours là. On a résisté à l'armée israélienne, un peu comme le Hezbollah avait résisté en 2006. Donc, on est des vainqueurs moraux. On a réussi à libérer des prisonniers en échange d'otages.
Est-ce que l'ampleur des destructions, considérable comme on l'a dit, impose, d'une certaine manière, impacte l'appréciation du succès ou pas militaire? C'est-à-dire que peut-être qu'on peut arriver, quand on est le chef d'état-major ou le Premier ministre israélien, à justifier un certain niveau de destruction si on atteint ses objectifs. Mais si on ne les atteint pas, en plus du spectacle qu'on offre au monde, là, on a un double problème.
Oui, mais je pense que d'ailleurs, c'était, on va le dire simplement, là, cette campagne de frappe massive était une erreur, au moins une erreur.
Mais c'est la doctrine. Vous le dites dans votre livre, depuis 2006 et l'opération au Liban. Après, il y a la doctrine d'Iraya, qui est un quartier de Beyrouth rasé.
Qui a été rasé.
Et le chef d'état-major de l'époque dit, dans une interview publique, que nous appliquerons un usage disproportionné de la force.
Oui, c'est général Eisenkot, qui fait partie du cabinet de guerre actuellement, et dont un des fils, d'ailleurs...
Et se revendiquer un usage disproportionné
mais
de la force...
Mais en fait, ça a toujours été ça. Il faut bien comprendre, depuis l'origine d'Israël, Israël est menacé par des ennemis, d'abord des États arabes voisins, plus puissants qu'elle, aussi des organisations armées, et la doctrine depuis toujours, c'est de dire, on ne fera pas la paix avec ces gens-là. Ils nous détestent, ils nous haïssent, c'est pas possible. L'histoire leur donnera tort malgré tout, mais il y a cette idée. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est frapper très fort quand on est attaqué. On ne peut pas les détruire non plus, mais on peut frapper très fort à chaque fois. On est attaqué, on riposte de manière disproportionnée. Et puis, ça va les calmer pendant quelques temps. Et puis, peut-être qu'à force de prendre des coups, ils vont finir par céder et renoncer. Mmh. Donc, ça, c'est véritablement ancré, quoi. Et ça a été appliqué contre les États arabes. Et puis, comme depuis 1982, Israël ne combat plus que des organisations armées, elle applique la même doctrine face à des organisations armées, avec cette difficulté que ces organisations armées, ce n'est pas des armées en rase campagne,
bien visible. Une guerre asymétrique.
Voilà. C'est ouais. Des gens qui sont incrustés, généralement dans des villes, donc au milieu de la population civile. Et donc, on applique une doctrine de riposte, de frappe massive, dans des contextes où 99% des gens sont des civils.
Ouais. Cyril Louis.
Et pardon, avec cette difficulté spécifique, on en a beaucoup parlé, que depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2006-2007, ils ont truffé le sous-sol de Gaza de ce réseau de tunnels qui leur permet de se protéger, qui leur permet d'évoluer sur une partie du territoire.
Mais là, Israël n'en est pas venu à bout de ce réseau ?
On a peu de visibilité là-dessus. Alors, ils disent régulièrement, ils montrent régulièrement à des journalistes ce qu'on appelle embedded, c'est-à-dire qu'ils emmènent avec eux dans la bande de Gaza sous forte sécurité. Ils montrent des tronçons de tunnels qu'ils ont réussi à mettre au jour. En fait, on a très peu de visibilité sur la portion du réseau qu'ils ont réussi à détruire. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'en 2014, ils s'étaient félicités d'avoir trouvé une solution à ce problème de tunnel, à la fois en les frappant massivement, en détruisant une partie, et en aménageant une barrière souterraine à la lisière de l'enclave pour empêcher des combattants palestiniens de rentrer par le sous-sol. On a vu le succès de ce dispositif le 7 octobre dernier. L'une des questions que je me pose, moi, c'est de savoir si les Israéliens sont en train de changer de doctrine. Il y avait la doctrine de Daryeh, effectivement, et puis il y avait cette autre notion que l'armée israélienne invoquait fréquemment, qui était celle de tondre le gazon à intervalles réguliers à Gaza. Oui. C'est une expression qui peut paraître un peu inélégante, mais qui renvoyait à un besoin, finalement, de dégrader les capacités des groupes armés palestiniens.
Couper ce qui dépasse régulièrement.
Régulièrement, donc ils l'ont fait
acheter
en 2009,
la paix comme ça.
Ils l'ont fait en 2012, ils l'ont fait en 2014, ils l'ont refait en
2021. Là, on est dans une autre dimension.
Et à chaque fois, ils s'achetaient en rétablissant une forme de dissuasion, quelques années de tranquillité. Mais là, je crois que dans toutes les têtes du pouvoir politique et militaire israélien, il y a l'idée qu'on ne peut pas, quand cette guerre sera terminée, revenir au statu quo hanté 7 octobre. Je ne suis pas sûr qu'eux sachent très bien comment ils peuvent changer le paradigme, changer la donne. Et on voit bien que le déploiement massif de forces est aussi une traduction de cette impasse stratégique.
Un mot sur l'utilisation de l'intelligence artificielle le ciblage, c'est quelque chose d'assez nouveau. On en entend parler depuis quelques temps au sujet de la guerre à Gaza, Michel Goya.
Oui, on en avait parlé en réalité pour la première fois pour la guerre de 2021, qui n'était pas contre le Hamas, mais plutôt contre le djihad islamique. On l'a dit, c'est la première guerre de l'intelligence artificielle.
Parce qu'il faut dire qu'Israël a une armée de pointe, équipée avec... les technologies les plus avancées.
Les Israéliens, notamment, c'est une armée de conscription, et ils récupèrent notamment tous les étudiants, en techno high-tech, et ils utilisent...
La high-tech de l'armée est très...
Pour développer leur propre high-tech, pour développer leurs services de renseignement, ce qui pose d'ailleurs des problèmes. Vous avez des services de renseignement militaires, notamment, qui sont très techno, qui ont plein de capteurs, etc., mais qui sont pilotés par des jeunes, et qui, en fait, ne connaissent, l'appréhendent plus du tout. Quelle est la psychologie, en réalité, des chefs qui sont en face, des vieux chefs, Mohamed Deif, ils ne comprennent pas. Par contre, ils ont d'excellents capteurs techniques, et ça a joué...
Et alors, l'intelligence artificielle, donc, ça sert à quoi?
On revient à ce problème. Vous avez un ennemi qui est incrusté dans un milieu complexe, urbain, avec beaucoup de population autour. Et tout le problème qui se pose, notamment pour une campagne de frappe aérienne, c'est trouver des cibles. Et donc là, on utilise un maximum de données, on mélange tout ça, et puis vous avez une machine...
Un logiciel intelligent qui vous dit, vous pouvez frapper là.
Qui vous sélectionne 300 cibles par jour.
Sauf qu'apparemment, les critères de l'algorithme ont été modifiés, puisqu'avant le 7 octobre, la tolérance de dommages collatéraux était de 10 civils pour une cible légitime, et elle serait passée à 100.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la machine qui prend la décision de tir. Hein. Vous avez quelqu'un, un homme à qui on donne...
Mais le réglage de la machine est humain.
Et la machine vous dit, voilà, pour tel type de cible, par exemple la maison identifiée d'un membre du Hamas, on estime que ça, si vous frappez cette maison, ça fera peut-être 3 victimes civiles. Oui. Et donc après, on adapte le curseur. Qu'est-ce qu'on choisit? Combien de victimes, en gros, combien de victimes civiles on accepte de tuer? Et donc, mais c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est nouveau, c'est une machine. Dans les campagnes précédentes, on ne le voyait pas. On voyait que les campagnes s'arrêtaient aussi parce qu'il n'y avait plus de cibles. Ouais. Ça n'avait plus où vous taper. Et alors que là, vous avez...
Alors que maintenant, la machine...
Elle arrive à trouver des cibles tout le temps.
Oui. On va passer... Oui, un mot?
Non, tout à fait. Je me rappelle qu'en 2014, le problème s'était posé. La guerre avait duré, je crois, 52 jours. Et au bout d'une quarantaine de jours d'opération, les médias israéliens, en lien avec l'armée, expliquaient que l'armée avait épuisé sa banque de cibles, en fait, et donc
elle avait plus,
encore des bombes. Et Netanyahou leur disait qu'il fallait encore bombarder la bande de Gaza, mais ils commençaient à avoir du mal à identifier des objectifs pertinents. Je pense que c'est très difficile de savoir, en fait, de décrire l'impact réel du recours à l'IA dans cette campagne de bombardement, mais l'une des questions qui se pose, me semble-t-il, sera de savoir... Si le recours à l'intelligence artificielle se sera traduit par un plus grand nombre de victimes collatérales ou un plus petit nombre ou un nombre identique, je ne sais pas du tout.
Alors, Patrick Saint-Paul, là, le secrétaire d'État américain, chef de la diplomatie américaine, demande carrément un changement de stratégie aux Israéliens, mais il n'a pas l'air d'être vraiment écouté. Comment ça se fait ?
Non, mais parce que traditionnellement, le Netanyahou n'écoute pas tellement le président lorsque c'est, enfin, sauf quand c'était Trump, mais avec Biden, on sent que le ton monte quand même entre Netanyahou et Biden, et que Biden est de plus en plus exaspéré par l'attitude de Netanyahou, et parce que Netanyahou n'écoute pas ce que dit Biden. La nouveauté, c'est que Trump a pris sa distance aussi avec ce qui se passe à Gaza, réclame aussi un cessez-le-feu, et là, ça met...
Il a dit
ça...
« Je ne suis pas sûr d'aimer la façon dont il mène cette guerre ».
Oui, donc là, ça met...
Il perd totalement la bataille de la com.
Et ça met Netanyahou, évidemment, sous pression, parce qu'il se dit que s'il n'y a plus le soutien des Américains, si jamais Biden perd les élections, avec Trump, ça ne sera pas forcément mieux. Et donc, sans les armes américaines, sans les munitions américaines, la guerre s'arrête, en gros.
Mais de facto, les approvisionnements américains n'ont pas cessé, ils continuent.
Non, ils n'ont pas cessé, mais bon, ils mettent quand même une très forte pression pour qu'il n'y ait pas une opération à Rafah. Et si on regarde Rafah, je pense qu'il y a aussi, surtout les Égyptiens, une grosse pression internationale. Rafah était à la frontière, c'est une ville qui est coupée en deux, qui est à cheval sur la frontière égyptienne et la bande de Gaza. Il y a 1,5 million réfugiés qui sont massés à Rafah. Ils sont en fait adossés à cette espèce de mur ou de séparation qui sépare l'Égypte de la bande de Gaza. Et moi, je me souviens en 2006, lors d'une précédente opération, les Palestiniens avaient fait tomber le mur pour passer de l'autre côté en Égypte. Et donc ça, c'est le scénario catastrophe pour tout le monde. C'est qu'en fait, cette population sorte de la bande de Gaza et se réfugie en Égypte pour prendre l'abri des combats.
On pourra revenir peut-être sur l'attitude de l'Égypte. Oui, vous vouliez ajouter un mot.
Non, ça, je pense que pour les vues d'Égypte, c'est vraiment une menace existentielle. Ça peut paraître étrange, parce que l'Égypte, oui, je crois que c'est en 90 ou 100 millions d'habitants. Et la population de Gaza, c'est 2 300 000 habitants, donc ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Mais pour tout un tas de raisons, les Égyptiens considèrent vraiment laisser passer dans le désert du Sinaï la population palestinienne de Gaza, ce serait une menace existentielle. Et il faut rappeler que le territoire...
Ce le serait ou c'est juste... ça relève du fantasme ou... Quelle est la menace ?
Alors, la menace, c'est l'implantation d'une population palestinienne importante et donc de groupes armés palestiniens sur le territoire égyptien, ce qui fragiliserait ou menacerait...
Il y a déjà Daesh dans le Sinaï.
L'accord de paix.
C'est là où sont implantés les frères musulmans. Hamas est une branche des frères musulmans.
C'est un désert.
C'est un groupe armé palestinien qui est en guerre avec Israël.
Mmh. Ouais.
Et donc, ce serait de nature, vu d'Égypte, à compromettre la paix avec Israël.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension stratégique qui consisterait à penser qu'on rend service au cabinet israélien de droite, d'extrême droite, qui dont certains membres veulent expulser les Palestiniens, et que donc en les acceptant en Égypte, finalement, on rend service à ce gouvernement.
Oui, qui verrait bien un certain nombre, oui, qui verrait bien la population s'en fuir.
Donc c'est à la fois la nouvelle la perception d'une menace et aussi la volonté de ne pas jouer le jeu de l'extrême droite israélienne.
Oui.
Revenons aux Américains. Comment explique-t-on que le parrain de l'État d'Israël, qui lui fournit l'essentiel de ses armements, ne soit pas audible? C'est parce qu'il ne veut pas être audible, ou bien parce que Netanyahou estime qu'il connaît tellement bien la politique intérieure américaine qu'il peut jouer des différents rapports de force, particulièrement en année électorale? Comment vous analysez ça?
Oui, mais il y a un peu des deux. Moi, je me souviens d'une vidéo où on voyait Netanyahou, alors ça date, ça doit être de 2002-2003, qui était en privé et qui disait... il disait, voilà, à l'époque, il faut taper sur l'autorité palestinienne, il faut leur faire le plus mal possible, etc. Puis quelqu'un disait, mais bon, tu crains pas la réaction américaine? Et il disait, la réaction américaine, je m'en fous, ils nous suivront toujours. Ouais. Et de fait... il y a un peu raison, surtout comme vous l'avez évoqué en période électorale, où quelqu'un comme Joe Biden est un peu coincé. Il veut en fait fâcher personne, c'est-à-dire que
ça vient en même temps.
Voilà, ça vient.
Sans faire compter du en même temps.
Oui, il fait du en même temps.
Il fait du en même temps, ouais.
Joe Biden.
Ouais. Parce que ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est qu'il y a maintenant un peu plus, une plus grande contestation sur le soutien à Israël au sein de, aux États-Unis, et notamment d'ailleurs dans la jeunesse, et notamment plutôt du côté démocrate. Donc Joe Biden est un peu embêté avec ça. Et en même temps, il ne faut pas déplaire non plus à la grande partie de la population qui, lui, continue à soutenir.
Mais enfin, quand on regarde les derniers...
Ça évolue un peu aux États-Unis sur l'opération militaire, il y a pour la première fois une majorité qui est contre.
Et au Congrès, le département d'État est obligé de contourner certaines contraintes du Congrès, où certaines livraisons d'armes devraient être soumises pour validation au Congrès, et le département d'État d'Anthony Blinken a contourné ces procédures pour donner son feu vert. Donc il y a quand même une attitude très proactive de la Maison-Blanche et du département d'État.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que tout ça avance très lentement depuis assez vite, en fait, après le début de la campagne au sol. L'administration américaine a essayé de faire passer des messages, de dire que le gouvernement et l'armée israélienne ne pouvaient pas tout faire, qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. Et tous les gens qui s'inquiètent des conséquences humanitaires de cette guerre trouvent que ces mises en garde sont... trop douce, trop mezza voce, qu'il faudrait hausser le ton davantage. Là, on a en même temps l'impression que depuis quelques jours, depuis que ces sept travailleurs humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen ont été tués par trois ou quatre frappes de drones israéliens.
Les Américains ont vraiment de journalistes, parce que je veux dire, les médias internationaux et les gouvernements s'offusque de la mort de sept travailleurs humanitaires, et nous la déplorons, mais il y a une disproportion qui me paraît absolument choquante entre le nombre de victimes civiles qu'on a évoqué tout à l'heure et le fait que les mêmes gouvernements ne disent presque rien à ce sujet, et soudain il y a sept travailleurs humanitaires et ça devient une affaire internationale.
C'est la différence,
Patrick Saint-Paul.
Là, il y a sept ressortissants étrangers qui sont tués, et c'est une ONG américaine. Je veux dire, c'est pas des employés de l'ONU. L'ONU est accusée par Israël d'être complètement pro-palestinienne. Et là, c'est pas des employés de l'ONU. Ils sont pas soupçonnés.
Vous trouvez pas la disproportion un peu choquante?
Qui intervient ailleurs, qui intervient notamment en Ukraine, où ils sont partout sur le front, qui s'est fait une réputation de fournir des repas chauds dans toutes les villes en guerre en Ukraine. Et donc c'est une ONG qui est très respectée.
On les critique pas, mais est-ce que la couverture médiatique de ces événements et la réaction politique vous paraît appropriée?
Si, c'est profond. Non, je pense que c'est profondément choquant. Bon. Ça renvoie aussi au fait qu'il n'y a pas de journalistes...
dans Gaza.
Il y a des journalistes palestiniens dans Gaza, mais dont la parole est assez systématiquement mise en contexte ou mise en doute par le camp adverse, par le camp israélien. Mm-hmm. Et de fait, il n'y a pas de journalistes étrangers qui aient pu se rendre dans la bande de Gaza. Donc, il y a peu de noms, peu de visages, peu d'histoires individuelles qui sortent. On se débat finalement avec des chiffres, des dizaines de milliers de morts, de blessés, de bâtiments détruits. Mais normalement, des journalistes qui sont dans la bande de Gaza, et ils racontent l'histoire d'une famille, d'une...
Et ça... Alors on y arrive par liaison indirecte, par interview téléphonique, etc.
Mais on y arrive,
c'est vrai,
mais c'est quand même beaucoup plus compliqué
notre travail
que dans plein d'autres conflits. En Ukraine, on arrive à documenter les choses de manière très... comment dire, très charnelle, enfin très individualisé, là c'est pas possible, et je pense que ça contribue à expliquer cette asymétrie entre l'émotion que suscite et cette humanitaire dont on a immédiatement pu diffuser les noms, les vidéos, les histoires, et les milliers de Palestiniens qui meurent pour la plupart de façon anonyme sous les bombes.
Ouais. Un mot sur le risque d'escalade régionale. Les Israéliens demandent depuis le début de cette guerre à Gaza que le Hezbollah se retire de la zone frontalière, au-delà de la rivière Litani. Et ils menacent depuis de le faire eux-mêmes par les armes si ça n'est pas obtenu par la diplomatie. On en est où ? Vous craignez, vous, un risque d'escalade au nord ?
Oui, il y a un vrai risque
qui
serait provoqué plutôt par les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a toute une branche qui dit, tiens, c'est un peu comme en 2006, mais à échelle 10. En 2006, il y avait eu, c'était le gouvernement Ehud Olmert, il y avait eu une attaque, il y avait une opération en cours contre Gaza, contre le Hamas déjà à Gaza. En même temps, le Hezbollah avait lancé un raid dans le nord, et le gouvernement s'était dit, tiens, on va en profiter pour casser une bonne fois de plus, une fois le Hezbollah. Et à un moment même, on se disait au gouvernement, tiens, si on attaquait la Syrie en même temps, en gros, on se débarrasse de tout le monde, on profite de l'occasion pour se débarrasser de tous nos ennemis, pour les frapper très fort, on y revient, cette idée de, au moins, de si on ne se débarrasse pas, mais on les frappe très fort pour les dissuader de recommencer et les neutraliser pendant
un
certain temps.
Mais c'est pas un peu avoir les yeux plus gros que le ventre?
Complètement. Je pense que ce serait une folie. Mais certains, il y a cette tentation, incontestablement. Alors que pour l'instant, l'Iran et le Hamas sont plutôt prudents dans cette affaire.
Mais il y a eu cette frappe sur une ambassade iranienne à Damas, qui a éliminé un haut responsable des gardiens de la Révolution et qui... ravive le risque d'emballement.
On peut le voir soit comme effectivement un coup d'opportunité de la part israélienne en disant, tiens, on a opéré une cible importante, on la frappe, tant pis, ou voire même, c'est pas incompatible, une forme aussi de provocation. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, le coup est tellement dur que l'Iran ne peut pas ne pas faire quelque chose, au moins pour sauver la face. Quoi.
Ouais. Et là encore, les Américains pourraient intervenir, non ? Ou dissuader les Israéliens d'ouvrir ce front, ce second front ?
Oui, et ils dissuadent surtout le Hezbollah depuis le début, de notamment avec les porte-avions, d'attaquer en pointant leurs canons sur
Hezbollah. Mais on sent pas une envie frénétique du Hezbollah.
On voit que le Hezbollah
est
sur le frein depuis le début, parce qu'eux, ils n'ont pas du tout envie que les quartiers dont ils ont le contrôle à Beyrouth ressemble à un nouveau Gaza, et de faire raser des quartiers entiers d'endroits dont ils ont le contrôle. Donc on voit qu'ils sont ils sont totalement sur la réserve pour l'instant, le Hezbollah. Ils font vraiment le minimum pour répondre à des roquettes ou des attaques israéliennes.
Et le risque d'une confrontation directe entre l'Iran et Israël, c'est crédible ou plus qu'avant ou moins pareil?
C'est possible, bien sûr, c'est possible, mais encore une fois, l'initiative viendrait d'Israël. Les moyens directement de l'Iran pour attaquer Israël sont relativement faibles, sont relativement limités.
Mais il faut rappeler qu'ils utilisent des proxys, les outils au Yémen,
en fait,
le Hezbollah.
La véritable arme, c'est le Hezbollah.
Des mouvements chiites armés en Irak, etc.
L'inverse, qui est une tentation du côté israélien de frapper en Iran, incontestablement. Sachant qu'il ne faut quand même pas oublier qu'entre les deux, il y a les Américains. Les Américains sont présents en Syrie, ils sont présents en Irak, au milieu de milices chiites pro-iraniennes, et que sont aussi en première ligne dans cette affaire. Donc, c'est un front spécifique dont on ne parle pas, mais l'Iran fait aussi pression pour que tous ces Américains quittent ces territoires. Mais juste d'un mot, par exemple, tout ça, c'est assez ancien. Une première fois que je suis allé en Israël, c'était en 2004, on prend contact avec des officiers israéliens, et puis on nous fait un briefing, et on nous dit, voilà, en 2004, pour nous, le problème palestinien est résolu. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'attentats. Voilà, on a fait une barrière, plus d'attentats, plus de problèmes. Bon, ok, très bien. En revanche, notre problème, c'est l'Iran. Et donc, nous, on se prépare. Voilà, notre véritable ennemi, c'est l'Iran maintenant. Et on se prépare très sérieusement à l'attaquer. Et ça, c'était il y a 20 ans.
Cyril Louis, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Bah, peut-être deux choses sur les raisons pour lesquelles le Hezbollah a le pied sur le frein depuis le début de cette guerre. Et évidemment que eux, c'est un acteur politique libanais aussi, le Hezbollah, donc ils ont un fort intérêt à ne pas exposer leur électorat et leur quartier, leur fief, à un déluge de bombes israéliens. Et puis la deuxième chose, c'est que vu de Téhéran, je crois que c'est une pièce d'un dispositif de dissuasion censé tenir en garde ou en respect Israël, et que le jour où le Hezbollah tire ses 100 ou 150 000 missiles sur Israël...
150 000 missiles ?
Je crois que c'est... roquettes et missiles, pardon. C'est fini, c'est un fusil à un coup. Donc je pense que les Iraniens ne sont pas ultra impatients de déclencher ça juste pour faire pièce à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Ouais. C'est la première chose. Mais d'un autre côté, effectivement, Israël a l'air très tenté de poursuivre cette guerre au Liban. D'une part parce que ça pourrait peut-être leur permettre de sortir par le haut de leur incapacité à... Oui. Si finalement ils ne peuvent pas déclarer victoire vraiment à Gaza, ils peuvent peut-être transporter le conflit autre part. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a, je crois, 60 000 Israéliens qui ont été contraints de fuir leur kibboutz, les localités voisines du Liban, et que ces gens-là, ils n'ont pas envie d'y retourner tant que la menace n'aura pas été neutralisée. Alors, je crois qu'Israël aimerait que des tierces parties, et notamment la France... exerce une influence sur les acteurs libanais pour contraindre le Hezbollah à retirer ses troupes quelques dizaines de kilomètres au nord, au-delà de la rivière Litanie. Mais pour l'instant, ça ne semble pas aboutir. Et c'est, pour le Hezbollah, ce serait un...
Alors justement, on en arrive à notre point. Comment sortir de cette nasse ? Alors Michel Goya, comment sortons de la guerre ?
C'est une bonne question, ça. La guerre, oui, on la commence souvent quand on veut, enfin au moins quand il y en a un qui veut sur les deux, mais on la termine quand on peut. On passe certainement dans une nouvelle phase où la priorité est accordée, parce qu'il y a vraiment deux problèmes vraiment séparés, quoi. La guerre contre le Hamas, la destruction du Hamas, et puis la libération des otages. C'est deux problèmes qui sont presque...
Il semble aujourd'hui à peu près... clair que la libération des otages passe par la négociation que par l'offensive.
Oui, c'est-à-dire l'idée, c'est
qu'il y en a eu trois libérés en tout en 6 mois de guerre.
Voilà, il y a en revanche beaucoup plus qui ont été libérés au moment de la trêve.
Mais il y en a eu 120 libérés en novembre.
Voilà, mais en échange, et c'est ça le sacrifice, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Ouais. Et c'est ça qui a un peu de mal aussi à passer côté israélien. Donc oui, on rentre au moins à court terme, certainement dans cette phase où il y aura très probablement un cessez-le-feu, un arrêt des combats, et puis sans doute une délibération d'otages et en échange de prisonniers. Mais après, pour la suite, c'est la grande inconnue. Et je parle même que du point de vue militaire. Et je ne parle même pas du point de vue politique. C'est-à-dire que quel est le sort du territoire de Gaza, qui va administrer Gaza, revenir au statu quo ante où le Hamas reprend le contrôle, ce n'est pas concevable. Mais qui a la place ?
Je voudrais avoir votre avis, si Patrick Saint-Paul.
Le Hamas est le seul groupe armé à être en mesure de contrôler la bande de Gaza. Et si on envoie l'autorité palestinienne, on risque de retomber dans une guerre interpalestinienne entre l'autorité palestinienne, le Hamas et les groupes armés qui sont alliés au
Hamas. Et d'ailleurs, Israël n'en veut pas de l'autorité palestinienne à Gaza. Et
l'autorité palestinienne n'en veut pas, mais il faut bien qu'il y ait une autorité qui gouverne la bande de Gaza. Alors, soit c'est Israël qui le fait directement, mais ça implique de maintenir une présence militaire forte et de s'exposer en permanence à des attaques du Hamas, parce que le Hamas restera. S'ils ont éliminé 10 000 hommes, il en reste 20 000. Il reste les principaux chefs, il reste Yahya Sinwar notamment. Et donc le problème restera. Et la bande de Gaza avec 2 millions de personnes, c'est le chaos si ce n'est pas administré. Il faut le Hamas.
Il va falloir reconstruire.
Il faudra reconstruire. Et, donc c'est très compliqué.
Je voudrais vous sonder. Avoir votre avis, Cyril Louis, sur cette idée qu'on entend régulièrement, selon laquelle la survie politique de Benjamin Netanyahou est indexée à la poursuite de la guerre. Est-ce que ce n'est pas un peu faire un mauvais procès à un homme politique que de dire il poursuit la guerre, il y a des milliers de morts uniquement pour sa survie politique quelques mois de plus ? C'est crédible, ça ?
Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais procès.
Non.
En fait, les Israéliens qui ont une relation complexe et ambigu à Benjamin Netanyahou depuis très longtemps, c'est le plus capé, enfin c'est le vétéran.
Il est là depuis 1996.
Des dirigeants.
Pas de manière.
Politique israélien et a servi plus longtemps que Ben Gurion. il cristallise très clairement depuis le 7 octobre toutes les frustrations, tous les regrets, toutes les colères, tout le sentiment d'humiliation israélien. Et donc, il y a clairement une majorité d'Israéliens pour vouloir tirer un trait sur l'air Netanyahou, étant entendu qu'il n'est pas question de le faire tant que dure la guerre. Mais je pense que Netanyahou...
Mais Netanyahou poursuit la guerre parce qu'il veut se maintenir au pouvoir ? On peut dire ça ?
Je pense que Netanyahou sait que le jour où la guerre s'arrête...
Il a beaucoup d'ennuis.
Il va se retrouver dans une situation extrêmement inconfortable, et d'autant plus inconfortable que je vous rappelle qu'il est actuellement jugé pour diverses affaires qui pourraient lui valoir de finir condamné.
Ça s'est déjà vu, ça, Michel Goya, un homme politique qui poursuit la guerre pour rester au pouvoir, uniquement
Je réfléchis, pas forcément.
Pas un peu caricatural ?
Peut-être, mais bon, si Netanyahou a eu un peu d'honneur, il aurait démissionné, en réalité, dès le 7 octobre. Il porte quand même... alors, évidemment, c'est pas... Attention, il ne faut pas inverser la charge.
Oui.
C'est pas lui, c'est pas les Israéliens qui ont attaqué le 7 octobre et qui ont commis des actes épouvantables. Mais en attendant, il porte une part de responsabilité dans ce désastre, à long terme et à court terme. Mm. Donc, la moindre des choses, selon moi, ça aurait été de démissionner. Et il est resté au nom du principe selon lequel on ne change pas un capitaine pendant la tempête. Mais donc, il a un peu contribué à aller dans cette tempête, en tout cas. Il se maintient, effectivement. Alors, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas forcément... Il n'y a pas forcément de vision très claire, en réalité, de l'avenir. Il y a des réactions. On a réagi, on est dans une fuite en avant, un mouvement un peu perpétuel à court terme, ou qui profite effectivement à la survie politique de Netanyahou. Bon, jusqu'à quand ? Pas éternel non plus.
Alors, il y a une nouvelle pièce au dossier aujourd'hui avec cette tribune co-signée par Emmanuel Macron, mais aussi le président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, qui dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de rétablir la solution de deux États et de travailler dessus, qui, on l'observe, s'aligne, la France s'aligne complètement sur les positions arabes, contre la colonisation, la confiscation des terres, etc. D'abord, sur la forme, est-ce que c'est pas un peu surprenant que ces trois chefs d'État ne puissent s'adresser aux Israéliens qu'à travers une tribune dans les médias ? Patrick Saint-Paul ?
Oui, c'est un peu surprenant, mais en même temps, c'est vrai que Netanyahou n'écoute pas tellement. Pour lui, la Jordanie et l'Égypte sont les deux pays arabes avec lesquels il a fait la paix en premier. Donc, c'est les deux pays importants dans la diplomatie arabe d'Israël. L'Égypte
normalement,
joue un rôle très important dans tous les aspects sécuritaires et renseignements. Il y a une partie des renseignements qui sont transmis par l'Égypte sur ce qui se passe à Gaza aux Israéliens. Donc, ils ont besoin des Égyptiens. Les Égyptiens jouent un rôle d'intermédiaire. Donc, normalement, ils pourraient avoir un dialogue direct avec Netanyahou. Mais on voit que c'est très compliqué aujourd'hui parce que, de toute façon, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce qu'ils disent.
Ils n'écoutent pas les Américains, ils n'écoutent pas les Européens, ils n'écoutent pas leurs amis, entre guillemets, arabes, oui, ceux avec lesquels ils ont des accords de paix, même si c'est une amitié discutable. Quelle leçon doit-on en tirer de cette surdité diplomatique, Cyril Louis ? Ça surprend déjà ou...
La surdité de Netanyahou, d'Israël, non, je pense que cette... Bon, d'une part, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'Israël ait une forme, disons, d'autonomie et qui s'est probablement renforcée sous Barack Obama. Netanyahou avait une relation assez conflictuelle avec Obama et il a eu le sentiment de réussir à manœuvrer, à ne pas se laisser contraindre, à poursuivre la colonisation.
Mais le renversement d'image qui s'est opéré entre maintenant et le 7 octobre, où la communauté internationale, dans son immense majorité, était aux côtés d'Israël et justifiait son droit de riposte, de se défendre, etc. Et 6 mois plus tard, on est dans une inversion presque à 180 degrés. Les Israéliens, ils s'en fichent de cette image, de ces conséquences-là ?
Non, ils s'en fichent pas, ils la sentent, mais ils considèrent que c'est une manifestation de plus d'un sentiment antisémite.
Qui préexistait.
Qui préexistait, ouais. Et qui... bon, là encore, je traduis le sentiment d'une partie de la classe politique israélienne. Tous les Israéliens ne pensent pas ça. Hein. C'est une société démocratique, très vibrante, très plurielle. Mais bon, il y a quand même un sentiment dominant qui sont en but à une forme d'hostilité.
Y a et les dernières manifestations contre Netanyahou, pas mal de, une dizaine de milliers de personnes devant la Knesset l'autre jour, ça peut reprendre
Je pense que ça reprendra probablement quand la guerre s'arrêtera. Là, pour l'instant, ces mouvements sont significatifs. Mais enfin, c'est 10 ou 20 000 personnes sur un pays de 8 millions d'habitants. Donc,
Il nous reste 30 secondes. Une question à la fois difficile et en même temps très brève à chacun d'entre vous. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est produit le 7 octobre justifie ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ? Patrick Saint-Paul.
Oui, l'objectif de détruire la masse. Il y a une chose que Netanyahou a réussi, c'est qu'il n'y aura plus un 7 octobre demain. Le Hamas n'a plus la capacité de refaire une attaque telle que celle-là. Mais ce qui n'est pas du tout justifié, c'est l'ampleur des pertes civiles et des dégâts matériels dans cette guerre.
En un mot, non, ça ne justifie pas. Hein. Vous avez 10 terroristes qui sont cachés dans un immeuble avec 1000 personnes, avec des otages, vous ne bombardez pas l'immeuble, vous ne détruisez pas l'immeuble, vous ne coupez pas l'eau, vous envoyez le GIGN, vous prenez des précautions.
Cyril Louis, en un mot, votre avis là-dessus ?
Ça ne se justifie pas, et surtout, et par ailleurs, je crains que ça crée les conditions d'une haine et d'une colère. Juste d'un mot, pendant la deuxième intifada, il y a eu des opérations militaires assez massives pour essayer d'éradiquer des groupes armés palestiniens. Les Israéliens ont réussi à réduire très nettement le niveau de violence pendant près de 20 ans, et le 7 octobre est arrivé.
Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis, bonne semaine à tous.